France Info.
Et les Pyrénées également seront bien enneigées de nouveau. Et un autre système dans le même temps, hein, très pluvieux ce coup-ci, remontera de Méditerranée jusqu'au Massif central. Vous voyez qu'on n'est pas sorti d'affaire.
Pas tout à fait. Merci Christine Peña et merci d'écouter France Info en ce vendredi 13 février. Bon réveil, il est 5h. À la une ce matin, les dégâts laissés par la tempête Niels. Nous serons dans l'Aude où la vie reprend doucement. Deux départements sont toujours en vigilance rouge pour crue, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Un de plus, Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle de 2027. Il l'annonce en vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le jour J pour Sophie Adnaud, l'astronaute française s'apprête à réaliser son rêve et à passer plus de 8 mois dans l'espace. Enfin, les Jeux de Milan Cortina avec encore du biathlon aujourd'hui et de nouvelles chances de médaille pour nos bleus. La tempête Niels se trouve dans l'est de la France ce matin, avec ses vents violents et ses fortes chutes de neige sur les Alpes. Hier, son passage dans le sud a laissé des traces avec des chutes d'arbres, des routes abîmées, tout comme des habitations. Dans l'Aude, la population de Saint-Marcel-sur-Aude, au-dessus de Narbonne, est restée à l'abri toute la journée, Marie Boéda, et les habitants découvrent désormais les dégâts.
Les deux pins de Gérard se sont effondrés dans son jardin.
Celui-là, là, il tremblait. Et quand il est tombé, il a amené l'autre.
Le retraité de 70 ans les a plantés il y a 35 ans, tout près de la piscine.
Ça me fera du soleil pour la piscine. J'aurai plus des épingles de pin dans la piscine.
Il va tronçonner ces deux immenses pins et garder le bois pour se chauffer l'hiver.
Sur Saint-Marcel, on n'avait jamais vu autant d'arbres tomber.
Le maire du village, Frédéric Nignès.
Bon, le vent fort, on est habitué à de la tramontane, mais aussi fort que ça, ça faisait très longtemps, depuis 99. Et moi, en tant que maire, et bon, depuis que je vis à Saint-Marcel, ça me fait quasiment 20 ans maintenant, je n'avais jamais vu ça.
80 pins endommagés vont être coupés dans les prochains jours, déplore l'adjoint à la sécurité, Michel Muriel.
C'est un crève-cœur parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là, on vit avec. Ça fait aussi partie du charme de la traversée de la commune.
Routes et trottoirs sont sécurisés, mais impossible de rouler sur un tronçon de la départementale avant lundi.
12 000 véhicules le jour, donc là on a pris un arrêté pour la fermer.
Si l'école rouvre ce matin, deux arbres menacent de tomber juste à côté. On est habitué, conclut l'élu, on a moins peur de ces épisodes.
Le reportage de Marie Boéda pour France Info. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge pour crue ce matin et en tout 28 départements sont concernés par une vigilance orange dans le pays. En Savoie, à Tignes, la population est confinée jusqu'à 6 heures ce matin en raison des fortes chutes de neige, même si le département n'est plus en vigilance rouge pour avalanche, rétrogradée hier soir en orange. À plus d'un an de la prochaine présidentielle, les candidatures se multiplient. La dernière en date est celle hier de Bruno Retailleau. Le président des Républicains en a fait l'annonce via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment.
Bruno Retailleau qui se dit aussi candidat par devoir avec la promesse en cas de victoire qu'il aura recours au référendum sur plusieurs grands textes de loi concernant la justice et l'immigration. En attendant 2027, le gouvernement en place continue son travail. Le successeur de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce une visite la semaine prochaine en Algérie. Visite dans un contexte de tension diplomatique avec la France qui apparaît comme le signe d'un léger apaisement, Christian Chesneau.
Après des mois de brouille, cela ressemble à une éclaircie dans le ciel orageux des relations franco-algériennes. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et son homologue algérien se sont longuement entretenus par téléphone pour préparer ce déplacement. Signe annonciateur du dégel en cours, les échanges sécuritaires ont déjà repris entre les deux pays. Au menu des discussions de la semaine prochaine figure en haut de l'agenda la question des réadmissions des Algériens sous le coup d'OQTF, c'est-à-dire d'obligation à quitter le territoire français, la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre le narcotrafic. Et puis il y a le cas du journaliste sportif Christophe Glaize, arrêté en mai 2024 et dont la famille a pu le visiter après son transfert de Tizi Ouzou dans une prison d'Alger. Paris attend un geste des autorités algériennes afin de remettre sur les rails une relation bilatérale au plus bas.
Les explications de Christian Chesneau de la rédaction internationale de Radio France. Aux États-Unis, Donald Trump annonce abroger un texte fondateur dans la lutte pour le changement climatique, notamment contre les émissions de gaz à effet de serre, ce qui provoque la réaction de l'ancien président des États-Unis. Barack Obama estime que les Américains seront moins en sécurité et en moins bonne santé avec cette décision du chef de l'État. En France, après le casse, voici la fraude. Le musée du Louvre face à une nouvelle affaire avec un préjudice estimé à 10 millions d'euros. 9 personnes sont soupçonnées d'avoir organisé un vaste réseau d'escroquerie à la billetterie du plus célèbre musée au monde. Des guides suspectés d'avoir fait entrer des groupes de touristes en fraudant. 20 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, Emmanuel Macron rend hommage à ce jeune juif torturé à mort à Bagneux aujourd'hui. Un chêne sera planté dans les jardins de l'Élysée. Alors que plusieurs arbres en sa mémoire ont été vandalisés ces derniers mois, notamment à Menton et Épinay-sur-Seine. Elle s'apprête à réaliser son rêve de petite fille. À 11h15, précisément depuis le Cap Canaveral en Floride, l'ingénieur et colonel de l'armée de l'air de 43 ans, Sophie Anneau, décollera vers la Station Spatiale Internationale. La Française et ses 3 autres coéquipiers passeront les 8 prochains mois à 400 km de la Terre, Olivier Aymon.
C'est toujours vers août 1996 que les pensées de Sophie Adnaud se tournent quand on lui parle d'inspiration, d'étincelle.
17 août 1996, Claudie Aigneret devient la première Française à s'envoler vers l'espace.
Cet été-là, Sophie Adnaud a 14 ans et le rêve d'aller dans l'espace désormais chevillé au corps. Une ambition qu'elle construit pas à pas, ingénieur, pilote d'essai sur hélicoptère au sein de l'armée de l'air, une première tentative pour devenir astronaute en 2007, à peine 25 ans, et puis enfin l'annonce, fin 2022.
Our first ESA career astronaut for 2022 is Sophie Adnaud.
Congratulations. Suivront 3 années d'intense préparation, d'abord au centre d'entraînement des astronautes européens en Allemagne, puis au sein de la NASA, pour se familiariser avec tout ce qui fait une mission au sein de la Station Spatiale Internationale, la technique, le physique, le psychique, jusqu'à ce matin où le rêve va laisser place à la réalité, partir dans l'espace, à bord d'une capsule SpaceX, et découvrir enfin la Terre vue de très haut, deuxième française, à tout jamais, comme un passage de témoin.
Et nous vivrons tout au long de la matinée le début du voyage de Sophie Adnaud, matinée spéciale sur France Info. Et je vous rappelle, l'heure du décollage, c'est 11h15. Eux aussi vivent en ce moment leur rêve aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan. Cortina, nouvelle chance de médaille pour les Français en biathlon. Avec cet après-midi à 14h le sprint homme, on retrouvera Éric Perrault qui a déjà remporté 2 médailles. Les Bleus sont très attendus aujourd'hui sur le site d'Anterselva Selva à 1650 mètres d'altitude, Fanny Lechevestrier, une localisation qui a toute son importance.
Et c'est tout sauf un détail, hein. Essayez plutôt de monter des escaliers à Paris, puis à Anterselva, vous sentirez tout de suite la différence. Autrement dit, l'altitude, il faut l'apprivoiser, s'y acclimater. Et à ce petit jeu, les biathlètes français ont un atout, la plupart vivent à plus de 1000 mètres d'altitude. Ainsi, Éric Perrault a passé beaucoup de temps cette année au Saisy, la station de Julia Simon, mais aussi de sa compagne.
Sur la courte période à la maison avant les Jeux, je suis allé m'entraîner sur une altitude similaire en fait à Anterselva pour peaufiner ma préparation.
4 ans que les Bleus ont également multiplié les stages de pré-saison à Besson ou Font-Romeu à plus de 1700 mètres d'altitude pour au final être à Anterselva comme à la maison, explique Cyril Burdet, l'entraîneur de l'équipe de France féminine.
C'est quelque chose qui nous fait sans doute beaucoup moins peur que les Scandinaves qui mettent peut-être un peu plus de temps que nous à s'acclimater. Donc on l'a aussi abordé dans le discours avec l'ensemble des athlètes comme un avantage en se disant ici on est chez nous, on est à une altitude qu'on connaît, dans des montagnes qu'on connaît. Forcément c'est tout sauf un frein pour nous.
Voire bien sûr un accélérateur tant sur les skis avec des Français très rapides depuis le début des Jeux que sur le pas de tir où l'essoufflement est moindre.
Le sprint homme à suivre sur France Info à partir de 14h. À suivre également aujourd'hui le patinage artistique avec un podium ce soir sur lequel le Français Adam Siao Imfa pourrait grimper. Il y a aussi du patinage de vitesse avec Timothy Loubino qui tentera de décrocher une médaille. Le sport, c'est aussi le football avec la 22e journée de Ligue 1 qui démarre ce soir. Rennes 6e du classement reçoit le Paris Saint-Germain qui fait la course en tête. À 21h05, Nantes se déplace à Monaco. 5h09 sur France Info. Christine Peña, ce qu'on peut dire, c'est pas d'accalmie.
Non, pas d'accalmie, effectivement. Nous sommes toujours avec ce temps perturbé, des pluies soutenues vers le centre, la Normandie, le long de la Loire, de la neige sur les Pyrénées, des pluies toute l'après-midi sur Paris. Nous avons un système très pluvieux qui va remonter de Méditerranée également. On a toujours du vent très fort hein, en Corse. 101 km/h encore enregistré à Ajaccio tout à l'heure à 4h. Et puis on a le froid qui va s'inviter ce week-end pour nous rappeler qu'on est toujours en hiver.
On ressort les doudounes donc. Merci Christine Peña, on vous retrouve dans moins de 20 minutes.
Pour la première fois depuis 25 ans, une Française dans l'espace.
Journée spéciale sur France Info.
Suivez en direct le décollage de Sophie Adnaud pour la Station Spatiale Internationale.
Retrouvez nos reporters et nos spécialistes sur la base de lancement de Cap Canaveral en Floride et à la Cité de l'Espace à Toulouse.
Sophie Adnaud, une Française dans l'espace.
Décollage sur France Info.
D'ici 5h30, qui pour prendre le siège de maire à Saint-Étienne ? Les candidats sont nombreux et la ville prête à tourner la page de Gaël Perdriau, l'ancien maire, condamné pour avoir fait chanter son premier adjoint avec une vidéo intime. Mais d'abord la tempête Niels qui laisse des traces après son passage dans le sud-ouest.
France Info, 5h-6h, Jeanne Mézia.
La tempête Niels poursuit son chemin ce matin et se déplace dans l'est du pays, au-dessus de la Corse. Hier, son passage dans le sud-ouest du pays a fait des dégâts avec des rafales de vent violentes. 145 km/h à Pau, par exemple, une vitesse jamais enregistrée depuis 50 ans. Alors, dans les rues, les dégâts sont visibles, Thomas Giraudeau, notamment dans le Nord-Béarn.
Dès la sortie de Pau, en montant vers Morlas, premier obstacle, un arbre tombé, la circulation réduite de 3 voies à une seule. Au volant de son camion, Jonathan préfère attendre l'arrivée des tronçonneurs.
Il y a un poids lourd qui est passé, il l'a senti passer la branche.
Il s'est rayé toute la carrosserie tout le long.
Niveau hauteur, ça passe pas et on attend le collègue pour qu'on puisse couper l'arbre quoi, ou la D2 de Morlas.
On continue direction Lembeye et on roule sur des centaines de petits branchages. On zigzague à certains endroits jusqu'à Conchesse de Béarn et la toiture arrachée d'Isabelle et de son voisin Raphaël au moment où les pompiers passent dans le village.
J'ai la partie là qui s'est envolée. Entre 3 et 4 heures du matin, c'est ma cuisine et une chambre. Oui, je suis inondée.
Puis dans votre jardin, il y a toute la laine de verre qui est par terre là.
Oui, 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 j'ai tout qui est par terre là.
Donc on vous tient encore, mais normalement on doit venir, enfin on va essayer de venir dans la journée. Voilà, essayer de bâcher, voir ce qu'on peut faire au maximum. Il y a d'autres dégâts là dans la commune ?
C'est moi là, j'ai la moitié du toit qui est parti.
Aussi ?
Ouais. Enfin une partie mais du garage, mais c'est des toiles en tuiles, c'est une partie.
Heureusement, ce n'est que le garage pour Raphaël. Il nous envoie vers Frédéric, un maraîcher en bas de la côte. Une de ses serres s'est en partie effondrée.
Hier, on a planté des pommes de terre. Et là, il y a des salades, des épinards. Oui, là, la bâche s'est envolée. Les récoltes, on va voir ce qu'on peut sortir. Mais c'est surtout qu'il faut reconstruire.
Il estime à 20 000 euros les dégâts et il n'est pas assuré. À quelques centaines de mètres, à Saint-Jean-Poudge, plus aucun habitant n'a d'électricité. Des poteaux électriques brisent par la force du vent, traîne au bord de la route.
Pas du tout d'électricité depuis 3h du matin. Donc on a les congélateurs et rien, donc on est dans le noir.
Vous pouvez pas ouvrir les volets ?
Non, du tout, parce qu'on a tout électrique, donc voilà.
Reportage signé Thomas Giraudeau d'ici Béarn Bigorre pour France Info. Dans le sud-ouest, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours ce matin en vigilance rouge pour risque de crue. 27 départements concernés par une vigilance orange. En revanche, en Corse, l'alerte orange pour vent élevé ce matin.
France Info, municipal 2026.
Direction Saint-Étienne, désormais où à un mois des municipales, les 173 000 habitants veulent tourner la page. Gaël Perdriau, l'ancien maire incarcéré, dans l'affaire du chantage à la vidéo intime sur son premier adjoint. Il est inéligible depuis décembre dernier et pour les élections des 15 et 22 mars prochains, 8 candidats se sont déclarés, Mathilde Imberti.
Avec tout ce qu'il y a eu sur Saint-Étienne, les gens ont beaucoup perdu confiance sur ceux qui nous dirigent. Ça, c'est parti en dérive.
Une électrice comme tant d'autres à Saint-Étienne, encore sonnée par l'affaire de la sextape. L'ancien maire Gaël Perdriau, condamné, incarcéré et qui apporte son soutien dans ces élections à Marc Chasseau-Bénet, l'actuel premier adjoint, candidat d'hiver droite.
Alors, l'héritage politique, bien sûr qu'on l'assume parce que le bilan est très bon. La ville a connu des transformations en profondeur, a gagné des habitants, a gagné des investisseurs, beaucoup d'étudiants. Les gens sont à la fois dans le regret regret d'avoir dû renoncer à une dynamique qu'ils trouvaient plutôt très intéressante. Et aussi un peu sous le choc de la décision de justice qui paraît à toutes et à tous disproportionnée, ce qui finalement donne plutôt l'envie de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau.
Face à lui, une autre adjointe de la majorité sortante, deux listes issues des rangs Perdriau. Ajoutez-y un candidat Horizon, puis encore l'ancien député Les Républicains Dino Cinieri.
Bonjour madame. Je suis candidat aux élections municipales. J'ai créé une entreprise de sécurité. On était le troisième groupe de sécurité français. Et on veut créer une brigade canine cynophile avec nos policiers municipaux. On veut mettre aussi des boutons d'appel d'urgence auprès des magasins, les buralistes, les bijoutiers et même chez certains riverains qui souhaiteraient avoir un appel d'urgence. Et on veut surtout améliorer aussi les caméras, non seulement les améliorer mais les compléter parce que je sais qu'il y a un pourcentage de caméras qui ne fonctionnent plus.
Pas moins de 4 listes au centre et à droite, une profusion qui pourrait profiter au Rassemblement national, reconnaît son candidat Corentin Jousserand, 28 ans. Rendez-vous fixé avec lui devant l'ancienne mine de Saint-Étienne.
Là, on se retrouve devant le puits Couriot, donc qui est l'emblème de la ville de Saint-Étienne et qui représente le passé glorieux de l'industrie stéphanoise. Saint-Étienne s'est paupérisé, nous avons perdu de nombreuses entreprises, de nombreuses usines. Le budget d'une commune, c'est presque 400 millions d'euros, hein. Donc c'est beaucoup d'argent pour investir. C'est aussi une possibilité, par exemple, de baisser la taxe foncière sur les commerces. On a perdu ce Saint-Étienne qu'on aimait et on aimerait le retrouver.
À moins que l'après-Perdriau ne signe le retour de la ville ouvrière à gauche, le socialiste Régis Joannico mène la liste d'union avec les écologistes. Sans LFI.
Pendant toutes ces années où on a parlé de l'affaire de la sextape, notre ville elle a été marginalisée aussi par rapport à nos partenaires, par rapport au projet. Par exemple, aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard sur la transition écologique. Nos espaces publics, il faut les préparer au réchauffement climatique. On va être une des villes les plus affectées. Il faut s'y préparer et ça, on a pris beaucoup de retard.
Et on se souvient ici que le dernier maire socialiste, jusqu'en 2014, l'avait emporté grâce aux dissensions dans le camp d'en face.
Et les autres candidats au municipal à Saint-Étienne sont Romain Brossard pour Lutte Ouvrière, Siam Labiche sans étiquette, Éric Le Jaouin d'Hiver Droite et enfin Valentine Mercier pour la France Insoumise. Dans un instant, place aux victoires de la musique et à cette étoile montante de la pop francophone. La chanteuse Elena et ses tubes Mauvais Garçon, Summer Body ou Capuche, nommés 4 fois. On l'entendra dans une minute, juste après l'essentiel de l'info.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Diane Ferchit.
Bonjour à tous.
L'info en une minute à 5h17 avec à la une, les établissements recevant du public sont-ils aux normes?
Depuis le drame de Grand Montana, 443 établissements français ont été contrôlés, indique le ministère de l'Intérieur. 44% d'entre eux présentaient des non-conformités à la réglementation anti-incendie. 45 fermetures administratives ont été prononcées. Vigilance rouge toujours en cours dans deux départements, la Gironde et le Lot et Garonne. Vigilance rouge au cru avec le passage de la tempête Niels. Hier soir, 550 000 foyers étaient privés d'électricité. La tempête qui se déplace vers l'est, vers la Corse et les Alpes. En Savoie, la station de Tignes est encore confinée jusqu'à 6 heures. Mais dans le département, la vigilance aux avalanches est repassée en orange. Il dit être candidat par devoir. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle. Le président des Républicains promet, en cas de victoire, de soumettre directement par référendum plusieurs grands textes de loi. Textes sur la justice pénale et l'immigration. De nouvelles chances de médailles aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, en sprint biathlon, en patinage artistique avec Adam Siao Imfa ou encore pour les femmes en snowboard cross, 8e de finale qui sera à vivre sur France Info à partir de 13h30.
France Info. La première fois qu'on a vu son regard bleu perçant, c'est sur la scène de la Star Academy il y a plus de 2 ans. La Belge de 23 ans, Elena, est nommée 4 fois ce soir aux 41e Victoires de la Musique. Son album cartonne depuis 1 an. Elle enchaîne les concerts et bien sûr, aimerait quitter la scène musicale ce soir avec un trophée.
J'avoue que cette semaine, j'ai eu plein d'autres choses que les victoires. Et donc, je voyais vraiment au jour le jour et j'essayais de pas trop y penser. Mais là, j'ai plus trop le choix puisque c'est le dernier objectif de ma semaine et que c'est maintenant. Et en soi, ma réflexion, elle est que j'ai juste envie d'être fière de ma prestation. Je pense que je mise tout là-dessus puisque le reste en soi n'est pas du tout de mon ressort. Et peu importe ce qui se passera ce soir, tout ce que j'ai envie, c'est d'être fière de moi et d'avoir donné la prestation qui me ressemble et dont je serai fière.
Dans cette année totalement folle, est-ce que ça faisait partie du plan, les Victoires de la Musique?
J'avais très envie que ça fasse partie du plan, mais j'en étais évidemment pas du tout sûre et je savais
sait pas. Enfin voilà, on peut jamais vraiment savoir. Mais c'est vrai que j'avais très envie. On m'en parlait quand même un petit peu autour de moi. Donc j'espérais que ça puisse se concrétiser. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Et donc ça a quand même été une très jolie surprise quand je l'ai appris.
Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste.
Cet album, c'est vraiment mes histoires, c'est ma vie entière. Il s'appelle Elle, c'est mon surnom. Enfin, je raconte vraiment tout ce qui me caractérise, toutes les histoires, expériences que j'ai pu vivre. Quand on écrit des chansons, un album, on le fait d'abord pour soi-même, pour se faire du bien. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai sorti Summer Body.
L'été arrive, soleil à la fenêtre. Summer Body me dit vite, mais je me sens pas prête. Il l'a mis dans les magazines. Des filles trop fraîches, à la silhouette trop fine, pour être honnête.
J'ai reçu énormément de témoignages et à la base cette chanson je l'avais vraiment écrite pour moi, pour me faire du bien, mais même si je me doutais que ça allait certainement faire écho chez ceux qui l'ont écouté. Et en fait les témoignages que j'ai reçus et tout ce qui s'en est suivi, ça m'a tellement touchée et je me rendais pas compte à quel point je pouvais... vraiment avoir un impact réel dans la vie de certaines personnes, juste simplement entre guillemets en écrivant des chansons. Et ça m'a vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, ok, c'est comme ça que je veux faire de la musique. C'est précisément ce pourquoi j'ai envie d'écrire, pourquoi j'ai envie de chanter. C'est magique, il y a une vraie bulle qui se crée, il y a un truc de sororité que j'aime vraiment énormément. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça et je veux aller que là-dedans. Je suis très fière de faire partie déjà de cette génération-là d'artistes féminines qui débarquent et qu'on écoute et qui ont un impact peut-être sur les gens. Et je suis très heureuse de faire partie de cette génération-là et d'autant plus du coup que ça se transfère sur les victoires en plus de tout ça, de tout ce qui se passe déjà depuis 2 ans.
Ce soir, parmi les nommés, il y aura aussi Pierre Garnier, il y aura Marguerite qui présente le point commun avec vous d'être issue de la Star Academy. On se dit que ce n'est plus un boulet aujourd'hui pour concourir aux victoires de la musique.
Oui, et c'est d'ailleurs ma surprise aussi d'avoir été nommée. Je ne pensais pas à cause de ça notamment. J'ai une jolie étoile au-dessus de ma tête puisque j'ai l'impression d'être arrivée au bon moment, au bon endroit. La Starac, aujourd'hui, c'est indéniable. On a découvert des candidats qui sont devenus de réels artistes, qui sont venus avec une vraie proposition artistique, musicale, visuelle, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a un moment donné où le public est plus fort que tout le reste. Et je suis hyper fière aussi d'avoir désacralisé un petit peu ce qu'est la Starac, ça peut mener vraiment à de réelles carrières. Et on n'est pas juste des artistes ou des gens de télé-réalité. En fait, on a vraiment proposé quelque chose et les gens aiment nous écouter. Donc je suis hyper contente qu'on ait créé tout ça, qu'on ait un petit peu... donner une nouvelle image à la Starac et que les victoires du coup se sont senties pas, je vais pas dire obligées, mais qui se sont dit bah voilà, en fait c'est indéniable et oui il faut en nommer certains, donc c'est cool.
Tout a changé, rien n'a changé, c'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Dis-moi que t'as reconnu mon rire, même si tout a changé. Appelle-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas. On se racontera nos soirées.
Elena avec Yann Bertrand pour France Info. Et on suivra bien évidemment les victoires de la musique ce soir en direct dès 21h. 5h23, c'est l'heure du monde d'Elodie. Avec ce matin, une écrivaine, animatrice de télévision et épouse du chanteur britannique décédé en juillet dernier, Ozzy Osbourne.
Bonjour Sharon Osbourne. Vous êtes sans conteste l'une des femmes britanniques les plus inspirantes, tour à tour écrivaine, animatrice de télé, manager, femme pendant des années d'Ozzy Osbourne. Vous avez su vous imposer et ouvrir la voie dans l'industrie musicale pendant plus de 5 décennies. Du haut de vos 73 ans, la femme et la mère de 3 enfants que vous êtes a quasiment tout affronté avec courage et détermination, comme ce cancer du côlon venu s'inviter un temps dans votre vie. Vous avez d'ores et déjà soulevé des montagnes, dans les domaines de la télé, du monde de la musique, avec cette émission de télé-réalité The Osbournes, qui suivait la vie quotidienne de votre famille et qui a conquis le cœur du public au point de vous élever au rang d'icône. Le 5 février dernier, vous étiez sur scène à la cérémonie des Grammy Awards aux côtés de l'artiste britannique Youngblood, qui a reçu le prix de la meilleure performance rock de l'année grâce à sa prestation dans le concert Back to the Beginning le 5 juillet 2025, que vous aviez d'ailleurs organisé en hommage à Black Sabbath et Ozzy Osbourne, avec Ozzy en fauteuil roulant atteint de la maladie de Parkinson, des images qui ont évidemment marqué. 17 jours plus tard, donc le 22 juillet 2025, Ozzy nous quittait, ce qui a évidemment suscité une immense vague d'émotions. Ozzy avait la maladie de Parkinson. Vous avez toujours prié pour lui. Vous êtes battu même pour qu'il remonte sur scène. Il était né pour la scène, Ozzy.
Ozzy definitely was born to go on stage.
Ozzy était définitivement fait pour être sur scène. Il avait l'habitude de dire : c'est la seule chose dans ma vie que je sais faire à peu près correctement. Deux semaines avant le spectacle, on lui a annoncé qu'il allait mourir.
Comment vous faites pour rester debout justement avec son absence, tout en sachant que sa voix et ce qu'il nous a laissé en patrimoine musical nous offre de nous dire qu'il est finalement toujours avec nous?
That is the one good thing. I don't have Ozzy, but I have his work.
Exactement, ce qui me reste, je n'ai plus Ozzy, mais j'ai encore son travail, j'ai encore sa voix pour toujours. Et ça me réconforte énormément. Il a laissé un tribut absolument énorme, une mémoire énorme pour le monde. Il sera toujours dans nos cœurs. Et c'est ces générations, vous savez, qui créent des légendes, qui résistent au temps et qui vivent pour toujours. Et je crois qu'Ozzy sera toujours vivant.
Son surnom, ça a toujours été The Prince of Darkness. Il dit de vous que, définitivement, s'il ne vous avait pas rencontré, il n'aurait évidemment pas eu, d'une part, la carrière qu'il a eue, mais d'autre part, qu'il n'aurait pas été aussi solide en tant qu'homme. Est-ce que ça vous touche de savoir que vous avez grandi ensemble et que, finalement, ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort? Ce couple sulfureux s'est nourri et, justement, s'est assagi, entre guillemets.
C'est vrai, mais ça a pris du temps. C'était en fait nous contre le reste du monde et souvent contre l'industrie musicale en fait. Parce qu'avec le comportement d'Ozzy, parfois les gens disaient il est fou, il est sauvage, il est incontrôlable, mais il avait un côté artistique qui était beaucoup plus important que son côté destructeur. C'était un créateur, il était toujours très sombre et il voyait toujours le verre à moitié vide, jamais à moitié plein.
Vous avez été un couple extrêmement puissant avec des échanges très forts, il y a eu des moments où vous êtes battus et en même temps vous êtes toujours restés.
C'était
une relation complètement dysfonctionnelle mais merveilleuse à la fois. Nous nous aimions si fort que parfois nous nous détestions. Moi je restais parce que je ne pouvais pas vivre sans lui. J'ai essayé, il a essayé. On n'a pas aimé la vie l'un sans l'autre en fait. Et on était très durs l'un avec l'autre, tous les deux.
Est-ce que vous vous autorisez par moment, Sharon, à vaciller? On a l'impression que vous avez cette carapace. Vous avez combattu un cancer du côlon, vous avez créé la marque Osbourne, Sharon Osbourne, cette femme d'affaires solide. Est-ce que par moment vous vous autorisez à avoir des faiblesses aussi?
Quand j'ai démarré dans l'industrie musicale, il n'y avait que des hommes autour de moi, même les journalistes. Donc j'ai créé une carapace en fait pour me protéger parce que c'était très difficile d'être prise au sérieux dans ce monde-là. Quand j'ai démarré dans l'industrie, mon père était connu et moi j'étais sa fille. Tout le monde pensait que j'étais là du fait de mon père. Ensuite, j'ai épousé mon mari et j'étais là parce que j'avais épousé cet homme-là. Donc j'ai été obligée de me construire une carapace pour dire « ne m'embêtez pas ». C'est comme ça, je suis comme ça. Et c'est ce que j'ai fait pour survivre, parce que cette industrie, à l'époque, était gérée uniquement par des hommes. Et c'était extrêmement difficile d'être prise au sérieux quand vous êtes la fille de quelqu'un.
Merci beaucoup, Sharon Osbourne, d'avoir accepté de passer dans le monde d'Élodie sur France Info. On va donc continuer à vous suivre et à écouter les albums d'Ozzy. Merci beaucoup.
Thank you. I am so sad. I lost the best friend that I ever had.
Et merci à vous, Élodie Suigo. Le monde d'Élodie Art, réécouté sur l'application Radio France. La météo à suivre.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Et Christine Peña, on garde bien notre parapluie.
Plus près de nous aujourd'hui.
Oh oui, il pleut déjà hein, sur le centre-ouest. Du côté de Nantes, de La Roche-sur-Yon, Royan, Niort, on a des pluies jusqu'à Châteauroux, Périgueux. Ces pluies vont remonter au nord de la Loire. En début d'après-midi, elles se fixeront entre le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, Paris et la Champagne. Elles vont rester là en place toute l'après-midi. Ces pluies envahiront également la façade atlantique. La chaîne pyrénéenne, là on a de la neige dès 1300 mètres d'altitude de prévu. Et puis dans le en même temps, un épisode très pluvieux, très actif, remontera de Méditerranée jusqu'au Massif central. Derrière, nous avons de l'air froid qui va s'installer. Petite accalmie pour samedi quand même. Et puis dimanche, quand on a des pluies qui arrivent avec des températures à 0 degré, qu'est-ce qui se passe?
Il gèle.
Il neige.
Ah, il neige.
La pluie dans le froid donne de la neige, effectivement, de la neige des Hauts-de-France jusqu'à Paris, jusqu'au centre. Et puis dans la soirée, sur le nord-est, ça c'est le programme de dimanche, certainement. Après, s'en suivra un redoux assez rapide la semaine prochaine, mais pas d'amélioration parce que le temps va rester agité, malheureusement.
Merci Christine Peña. Dans la prochaine demi-heure, sur France Info, la candidature du patron des Républicains à la présidentielle de 2027, Bruno Retailleau l'a annoncé hier, on y revient. Et puis cette question qu'achètent les adolescents avec leur argent de poche, on tentera d'y répondre. Mais avant, il est l'heure d'un nouveau journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez, il est 5h30.
France Info. Jeanne Mézières.
Plus de courant, des dégâts sur les routes ou encore sur les bâtiments. La tempête Nils poursuit sa route dans l'est de la France ce matin. Mais hier, c'est le sud-ouest qu'elle a frappé en Charente, dans la ville de Baignes-Sainte-Radegonde. Il n'y avait quasiment personne dans les rues. Pierre Marsa, tout le monde était à l'abri.
Dans le hameau de Sainte-Radegonde, à Baignes, il faut avoir une bonne vue pour identifier des silhouettes derrière les fenêtres. Finalement, c'est Hélène qui ouvre aux visiteurs visibles de l'intérieur. Sans électricité, sa vie quotidienne est un peu perturbée.
J'avais pas internet et j'ai dû aller faire un partage de connexion sur Baignes. Et là où j'étais, ils avaient pas l'électricité, effectivement. Et j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo à 14h. Et quand je me suis présentée, il y avait un panneau comme quoi c'était fermé parce qu'il y avait pas d'électricité.
Sur la place principale de Baignes, tous les commerces sont portes closes. Pas de croix verte à la pharmacie, le bar et le restaurant sont fermés. Claude Foucault, un habitué, erre d'une boutique à l'autre.
C'est vrai que maintenant tout est électrique, tout ça. Encore heureux, nous on a du gaz. Alors on peut faire de la cuisine au gaz. Mais autrement, l'électricité, ça manque. Hein.
Denis Benoît est agriculteur. Il a décidé de faire un travail à l'extérieur, consolider la charpente d'un hangar. Car dans la maison, pas de courant, mais dehors, pas besoin d'électricité.
On travaille avec des outils portatifs, avec des batteries. Et comme on travaille à l'extérieur, on n'a pas besoin de lumière.
Le tabac-presse de Laurence Poitou est le seul magasin ouvert. Pas de lumière à l'intérieur. La commerçante se débrouille comme elle peut.
Ben, on travaille à l'ancienne. On note sur une feuille tout ce qu'on vend. Et puis voilà, et que en espèces.
Pas de chance, c'est une période de vacances. Et les plus jeunes, sans électricité, sont un peu perdus. Certains en ont profité pour faire une promenade avec leur chien.
Le reportage de Pierre Marsa d'ici La Rochelle pour France Info. Ce matin, deux départements sont toujours en vigilance rouge pour crue, la Gironde, Lot et Garonne. 27 départements sont concernés par au moins une vigilance orange dans le dernier bulletin de Météo France. En revanche, plus de vigilance orange pour vent en Corse. 443 établissements contrôlés en France depuis l'incendie de Grand Montana il y a un mois et demi en Suisse. Des contrôles dans 78 départements et ce résultat, 195 établissements présentent des non-conformités à la réglementation anti-incendie, des alarmes qui ne fonctionnent pas ou des salles en sous-sol pas déclarées. 45 fermetures administratives ont été prononcées. Au Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez promet d'organiser des élections libres dans le pays. Plus d'un mois après la capture du chef d'État Nicolas Maduro par les États-Unis, elle le dit lors d'un entretien à la chaîne américaine NBC. Plus que quelques heures avant le décollage, Sophie Adno prend la direction de la Station Spatiale Internationale. Elle sera la deuxième Française à se rendre dans l'espace après Claudie Aignieré il y a 30 ans. Cette mission va durer 8 mois et démarre à 11h15 depuis le Cap Canaveral en Floride. Et c'est un rêve pour Sophie Adno, 43 ans, qui a bien préparé sa valise.
Il y a un objet, alors c'est vraiment un tout petit parce que tout ce qu'on emporte est soumis à des règles très strictes. Mais j'ai emporté une petite carte, c'est un petit diplôme que mes instructeurs, quand je faisais l'entraînement sur la capsule Crew Dragon chez SpaceX, m'ont offert. Ils m'ont offert non seulement le vrai diplôme, mais aussi un petit diplôme amusant. Et c'est un carton qui fait la taille d'une carte à jouer. Et sur ce carton, il y a marqué Capsule Ninja. Voilà, il trouvait que j'allais vite et j'arrivais à faire les choses vite. Et je me suis dit, ça, je l'emporte avec moi. Ça sert à rien, mais moi, ça me réconforte. Et puis, ça me rappelle les bons moments d'entraînement avec l'équipage.
Sophie Adnoki décolle dans quelques heures pour la Station Spatiale Internationale depuis le Cap Canaveral en Floride. Journée spéciale sur France Info pour l'occasion. Aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, une médaille en plus en poche pour les Bleus hier. La Française Romane Miradoli a remporté l'argent du super géant ski alpin. Je suis sur mon petit nuage, confiait-elle hier sur France Info. C'est la première récompense pour le ski féminin français depuis 2002. Aujourd'hui encore des chances de voir des tricolores sur les podiums avec notamment ce soir le patinage artistique et le français Adam Siaoimfa en lice. Enfin, eux seront récompensés pour leur musique ce soir. 41e cérémonie des victoires de la musique à la scène musicale, avec entre autres une certaine Théodora nommée dans 5 catégories, dont celle des révélations. On y retrouve aussi la belge Elena ou encore Mickey. Chez les hommes, parmi les nommés This Is, Orelsan ou encore Pierre Garnier. 5h35 sur France Info.
France Info. 5h-6h. Jeanne Mézia.
C'est une candidature à la présidentielle qui n'a rien d'une surprise. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, l'a officialisé hier avec plusieurs promesses, comme celle du recours au référendum sur plusieurs sujets comme la justice et l'immigration. Il se dit candidat par devoir, mais un défi s'impose pour l'ancien ministre de l'Intérieur, celui de se faire une place parmi tous les autres candidats. Pour Bruno Cotrès, politologue et chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche sur la vie politique française.
C'est pas une surprise. Bon, d'abord, il est quand même le patron du parti, hein, les Républicains. Donc, c'est pas non plus très étonnant qu'un chef de parti veuille être candidat à l'élection présidentielle. Il avait pas fait mystère qu'il souhaitait peser tout son poids dans la campagne présidentielle de 2027. Par contre, c'est vrai que le timing surprend un petit peu. Effectivement, il s'agit sans doute pour lui de préempter les choses. Il y a beaucoup de candidats qui sont déjà sur les rangs dans sa famille politique ou dans les candidatures qui vont graviter autour de sa famille politique, on va dire le centre-droit. Le tableau commence à être chargé, il y a beaucoup d'ambition. Et donc, lui, il a voulu, d'une certaine manière, prendre les autres de vitesse.
On va avoir bientôt plus de candidats que d'électeurs, c'est ce que déclare un ministre de droite du gouvernement. C'est vrai que ça se bouscule, mais 14 mois avant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt?
Quand on part trop tôt, il faut tenir effectivement la distance. Et puis, c'est toujours prendre un petit peu le risque que ça va s'essouffler à un moment donné. Il a affiché déjà un certain nombre de propositions. Par exemple, il dit que dans sa campagne présidentielle, il proposera déjà les textes sur lesquels il souhaite que les Français se prononcent par référendum. Donc, on voit qu'il va normalement défiler ses thèmes de campagne assez rapidement, puisqu'une fois qu'il a dit ça, tout le monde va lui poser la question de quel thème s'agit-il, avec quelles orientations. Donc, c'est un petit peu le risque d'une annonce très prématurée, en tout cas très en avance, de la candidature, c'est le problème de tenir la distance et de devoir nourrir l'espace public, parce que sinon il y a le risque effectivement d'un coup d'éclat de déclaration et puis après d'une plus grande difficulté à occuper l'espace public.
Vous vous attendez à quel type de campagne? Parce qu'il y a certaines phrases quand même qui sont assez importantes, par exemple qu'il ne cédera pas aux dérives de l'état de droit. Comment vous comprenez cette phrase?
Alors c'est un thème que le patron des Républicains avait déjà à plusieurs reprises évoqué, c'est un message qu'il envoie à certaines franges de l'électorat de droite qui considèrent que rien ne peut avancer, que rien ne peut être changé parce qu'il y a toujours à un moment donné un conseil constitutionnel, un juge, quelqu'un qui va empêcher d'aller au bout des réformes. Et c'est vrai qu'une partie de la droite, je ne dis pas toute, une partie de la droite réfléchit depuis un certain nombre de mois à ces questions. Avec le sentiment que sur des questions, par exemple sur l'immigration, on a beaucoup dit on peut pas faire de référendum sur l'immigration parce que c'est pas constitutionnel. Donc ce sont ce genre de messages qu'il a voulu passer et aussi il a réaffirmé un certain nombre de thèmes qui lui sont vraiment chers. Hein. On a retrouvé quand même les grandes thématiques de Bruno Retailleau.
Mais donc ça sera pour vous une campagne plutôt à droite toute?
On voit effectivement des thèmes qui sont très incarnés par la droite, la question du travail et du mérite. la question des efforts qu'il faut faire, il faut remettre en ordre le pays, il va falloir beaucoup travailler pour remettre en ordre le pays, il faut dire la vérité sur les questions d'immigration, il faut remettre un petit peu l'État à sa place, la fierté française, les valeurs. Donc on voit effectivement un certain nombre de mots-clés qui ont été donnés par le patron des Républicains, qui sont clairement dans le répertoire des mots-clés de la droite.
Est-ce que le choix du candidat du côté du RN, est-ce que ça change quelque chose à la stratégie de la droite et de Bruno Retailleau, si on a Bardella ou si on a Le Pen? Est-ce que ça change quelque chose, à votre avis, dans la façon dont il va mener la campagne?
Je ne pense pas que Bruno Retailleau aurait fondamentalement modifié ses thématiques, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, candidat au Rassemblement national. On a retrouvé, là, dans les thèmes qu'il a dit ce soir, quand même des questions, des thèmes sur lesquels il a toujours voulu être présent. C'est tout sauf une surprise de voir Bruno Retailleau parler qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français, parler de l'ordre, de l'immigration, etc. Mais c'est vrai que la candidature du Rassemblement national, avec un Jordan Bardella qui a voulu s'adresser, par exemple, au monde de l'entreprise, alors que c'est normalement les Républicains qui veulent incarner, eh bien, une économie qui est plus favorable aux entreprises, etc. Donc, un Jordan Bardella aussi, qui, par son âge, sa trajectoire fulgurante, peut séduire certaines franges de l'électorat de droite. On voit effectivement qu'Bruno Retailleau devra tenir compte de l'offre du côté du Rassemblement national.
Il y a la question de l'union des droites. C'est une question que beaucoup se posent, y compris dans son camp.
Nous observons, enquête après enquête, que sur un certain nombre de sujets, les électorats du Rassemblement national, les sympathisants du RN et les sympathisants des Républicains ne sont pas si éloignés que ça, notamment sur toutes les questions qui touchent à la sécurité intérieure, à l'ordre public, à la question de l'immigration. On voit que sur ces questions-là, eh bien, les deux électorats sont pas si éloignés que ça. Il reste des différences. Le rapport à l'Europe, le rapport à l'économie. Est-ce qu'il faut, au fond, davantage ouvrir l'économie française pour lui permettre de gagner des marges de manœuvre? Les Républicains sont plus favorables à cette idée que les sympathisants du Rassemblement national. Par contre, est-ce qu'il faut fermer le pays pour le protéger davantage des flux migratoires? Les deux électorats sont relativement proches sur ces questions.
Et est-ce que Bruno Retailleau peut évoluer sur cette question? Il avait été très ferme au moment du départ d'Éric Ciotti sur une alliance avec le RN.
Oui, il avait été très ferme. On se rappelle tous de cet épisode, effectivement, du départ d'Éric Ciotti. Donc ça, c'est une question qui est une question très, très ouverte pour les Républicains, à forte dose stratégique pour eux. J'imagine que les élections municipales nous en diront un tout petit peu plus. Il va falloir voir est-ce qu'il y a des rapprochements de listes. Et c'est une question assez fondamentale pour les Républicains aujourd'hui, qui sont face à une forme de crise à la fois stratégique et presque d'identité. On voit la déclaration de Bruno Retailleau qui veut à nouveau planter le drapeau des Républicains sur un certain nombre de thèmes.
Le politologue et chercheur Bruno Cotteresse avec Renaud Blanc sur France Info. Que font les adolescents de leur argent de poche? Eh bien, ils achètent de la nourriture, des bonbons, des gâteaux. Voilà ce que nous révèle une étude de l'application PixPay qui propose des cartes bancaires pour les mineurs et analyse leurs habitudes de consommation. Margot Croison, vous vous êtes rendue devant le collège lycée Camille C dans le 15e arrondissement de Paris où vous avez rencontré des jeunes très gourmands.
La sonnerie a à peine retenti que deux collégiens, sac à dos sur les épaules, courent vers le Carrefour City juste à côté.
Oui, j'achète des Haribo.
Avec leur argent de poche, les deux garçons s'achètent chacun à tour de rôle des friandises qu'ils se partagent ensuite.
En fait, on y va à peu près une fois par semaine parce que c'est notre petit plaisir à la fin du collège. Ça nous remonte le moral pour les cours.
Parfois, on prend quelque chose d'autre, des chips ou des boissons.
Selon l'étude réalisée par PixPay, un tiers des dépenses des ados se font dans les supermarchés. Mariama, elle, a 10 euros par semaine. La lycéenne de 15 ans dépense tout dans la nourriture.
On a pris des petits brownies à 2 euros, sinon des chips, ou voilà, des petits casse-croûtes simples, rapides. Pour la récréation ou les heures de trou.
Dans le magasin, impossible de rater les paquets de chips, les gâteaux au chocolat ou les bonbons colorés. Des énormes rangées sont entièrement dédiées à ces produits. Un choix complètement assumé par Alexandre, le gérant du Carrefour City.
Je choisis un assortiment spécifique à l'environnement du quartier. Ici, on a beaucoup de jeunes et on a la chance d'avoir 3 établissements scolaires. Du coup, on a énormément de produits très sucrés. Ils sont cœur de cible et ça marche.
D'autant plus qu'avec l'inflation, l'inflation, les fast-foods deviennent aussi plus chers.
La même capacité d'achat, ils peuvent acheter moins de choses et du coup, ils s'orientent plus vers la distribution alimentaire. Plutôt que de se payer un McDo, ils préfèrent se payer un croissant à 10h, une pasta box à midi et un paquet de chips à 4h.
Malgré l'augmentation des prix, McDonald's reste dans le top 2 des enseignes préférées des adolescents. Appuyée sur la rambarde, Céline attend sa nièce à la sortie du collège.
C'est une génération aussi qui veut ça. Ils préfèrent un McDo qu'un repas bien équilibré entre plats dessert. Et c'est vive la malbouffe, quoi. Après, pareil pour les snackings, les goûters. Dépenses peut-être pour nous futiles, mais peut-être important pour eux aussi. De se retrouver comme ça après les cours. C'est un petit moment de partage entre eux. Voilà, pour souffler un peu aussi, quoi.
Ce midi, Céline emmène sa nièce au McDo. Et pas besoin de sortir l'argent de poche cette fois-ci. C'est Tata qui paye.
Le reportage de Margot Croison pour France Info. À suivre, la messagerie WhatsApp bloquée en Russie, décryptage des enjeux, juste après l'essentiel de l'info.
France Info, 5h-6h.
À 5h44, l'info en une minute, Diane Ferschit. À la une, la tempête Nils se déplace ce matin vers la Corse et les Alpes.
Mais dans le sud-ouest, deux départements restent en vigilance rouge au cru, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Hier soir, 550 000 foyers étaient toujours privés de courant. 27 autres départements sont, eux, en vigilance orange, notamment dans les Alpes pour avalanche. La Savoie, qui n'est plus en vigilance rouge ce matin, la population de Tignes va pouvoir ressortir dehors après avoir été confinée pour la nuit. 9 interpellations dans l'enquête sur une fraude d'ampleur au musée du Louvre et au château de Versailles, fraude à la billetterie. Les suspects utilisaient plusieurs fois le même billet pour les groupes de touristes chinois. Préjudice estimé 10 millions d'euros, en tout cas au musée du Louvre. Selon le parquet, les mises en cause sont soupçonnées d'avoir investi une partie du fruit de l'escroquerie dans l'immobilier en France et à Dubaï. La mise en garde de Barack Obama, les Américains seront selon lui moins en sécurité et en moins bonne santé. Après cette décision de Donald Trump sur le climat, l'actuel président des États-Unis abroge un texte qui sert de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle va décoller à 11h15 pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Toute première mission pour la spationaute Sophie Adnaud. Elle va durer au moins 8 mois. Sophie Adnaud qui devient la deuxième Française à se rendre dans l'espace.
France Info. Difficile d'utiliser l'application de messagerie WhatsApp en Russie. Le Kremlin a confirmé hier son blocage dans le pays en raison de sa réticence à respecter la loi russe. L'application est utilisée par 100 millions de personnes dans le pays. Son blocage est le symbole d'une censure de plus en plus forte des autorités russes. C'est ce que nous explique Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et au Centre géopolitique des technologies.
Je pense qu'en fait, il faut voir la décision du Kremlin comme articulant deux grands objectifs. Il y en a un qui est très lié à l'actualité immédiate, et notamment tout le contexte de la guerre en Ukraine et du besoin que les autorités russes ressentent de verrouiller encore plus l'accès à l'information, et une information qui sort des canaux officiels. Et le deuxième objectif, il est davantage de long terme, il est à resituer dans une politique qui remonte aux années 2010 de contrôle technique, de contrôle des infrastructures numériques pour essayer d'avoir une version étanchéifiée, une espèce d'intranet en fait en Russie, qui est vraiment un projet au long cours et qui nécessite des moyens importants. Donc les décisions récentes en fait sont peut-être une forme d'aboutissement de ce projet hein, qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, la Russie étant très étendue géographiquement, donc on se doute qu'il y a beaucoup de routes numériques et de portes d'entrée, d'accès vers l'étranger, et que le Kremlin entend à tout prix fermer.
100 millions de Russes à peu près utilisent WhatsApp.
C'est ça. C'est environ 100 millions, ce qui est une donnée importante dans un secteur, dans un type de service, les messageries instantanées chiffrées, qui est assez concurrentiel. Puisque vous avez aussi Telegram, qui a été cofondé par un Russe, Pavel Durov, dont on entend beaucoup parler en France notamment, et qui est très utilisé par les Russes.
Ça fait débat parce que les Russes, y compris les Russes qui sont sur le front dans la guerre contre l'Ukraine, se servent de ces réseaux, notamment de Telegram, pour pouvoir dialoguer avec leur famille.
Exactement. Il y a plusieurs types d'usages en fait de Telegram en particulier en Ukraine pour les Russes. Hein. C'est à la fois la communication personnelle entre, vous l'avez dit, le soldat et puis l'arrière, hein, leur famille. Mais c'est aussi utilisé de plus en plus par le commandement, pas forcément à un niveau très élevé, au niveau des officiers supérieurs, mais plutôt au niveau des sous-officiers pour aller donner des ordres et puis interagir en fait au quotidien. Et il y a un autre usage qui, à mon sens, a pris les devants depuis quelques années du côté russe, hein, c'est le fait que Telegram est un outil à part entière dans une guerre informationnelle, à la fois de la part des autorités russes visant la population russe, mais également visant l'Ukraine, et par ricochet visant les pays occidentaux, dont les pays européens, bien sûr. Donc il y a un usage en fait très étudié de ce canal qui permet notamment de créer des groupes jusqu'à 200 000 personnes, donc ce qui est une caisse de résonance tout à fait impressionnante. Donc il y a semble-t-il une perte sèche qui a effectivement été critiquée assez vertement par toute la communauté des blogueurs militaires comme on dit en Russie.
Le réseau que veut mettre en place le gouvernement du Kremlin, c'est le réseau Max, totalement aux mains du pouvoir, c'est-à-dire qu'on est totalement contrôlé si on l'utilise.
Ouais, totalement verrouillé, puisqu'en fait son architecture technique est faite de telle sorte à ce qu'elle ne permette aucun passe-droit. Qu'il y a aucun chiffrement de bout en bout, hein, donc ce qui en fait ne garantit aucune confidentialité des échanges et des informations transmises. Donc là, voilà, on peut présupposer tout à fait justement que les autorités l'ont conçu by design, comme on dit, hein, de façon très volontaire pour empêcher toute idée dissidente, notamment à l'approche des élections législatives en septembre prochain.
Julien Ossetti, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la même logique que ce que l'on observe dans des dictatures comme l'Iran ou comme la Chine ?
Alors, le parallèle est assez tendre. Il y a évidemment des ressemblances, il y a quelques limites, alors, des ressemblances avec la Chine de plus en plus, même si la Chine, depuis quasiment 30 ans, a construit, a fait évoluer son cyberespace de façon fermée par nature, en fait. Et il a été conçu de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de porte vers l'extérieur, alors que la Russie, pendant extrêmement longtemps, a été très interdépendante avec le monde extérieur sur un plan numérique, hein, sur le plan des services, hein, les WhatsApp, les YouTube, etc., et aussi sur le plan des infrastructures, des centres de données, etc. Donc moi je rapprochais plutôt la Russie du modèle entre guillemets iranien, où on a vu d'ailleurs récemment en Iran, hein, dans les contestations récentes et puis qui se poursuivent, que les autorités iraniennes avaient développé une politique de contrôle numérique qui partage quelques traits avec la Russie, avec des ralentissements des services, hein, les messageries, certains sites YouTube, etc., ont été volontairement ralentis par les autorités iraniennes, et des coupures d'accès plus ou moins localisées et plus ou moins durables aussi dans le temps. Donc c'est une politique qui de contrôle qui n'est pas monolithique, en fait, elle évolue constamment au gré des intérêts des autorités. Donc ça ressemble vraiment assez fortement à ce que les Russes pratiquent depuis déjà quelques années.
Le chercheur Julien Ossetti avec Renaud Blanc. À suivre la playlist de France Info, Britney Spears a vendu ses droits musicaux pour, écoutez bien, 200 millions de dollars. Ce sera juste après l'actu de l'écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique en trois titres. Les ventes liées à la mode ultra éphémère confirment leur succès auprès des Français.
Oui, l'année dernière, plus d'un tiers des consommateurs, 38% précisément, ont acheté des vêtements sur des plateformes comme Shein, Temu ou AliExpress. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de l'Institut français de la mode. Alors, une clientèle attirée, on le sait, par les prix très bas, la diversité des produits et les tailles disponibles en grand nombre. L'étude menée auprès de personnes représentatives de la population française montre que les plus grands consommateurs d'ultra fast fashion sont les femmes âgées de 16 à 24 ans. 56% ont déclaré en avoir acheté. Les hommes de la même classe d'âge sont 36% à avoir commandé sur une plateforme de ce type.
L'or et l'argent pâtissent du nouvel an chinois.
Et oui, le cours de l'or perd plus de 4%. Celui de l'argent décroche de 11%. Mouvement constaté en amont de la fermeture des marchés financiers en Chine pendant les congés du nouvel an lunaire à partir d'aujourd'hui. Le nouvel an chinois chinois sera en fait célébré à partir de mardi. Moins d'acheteurs prévus sur ces deux valeurs sur le marché asiatique et les cours reculent. L'or s'inscrit ce matin à 4 958 $ l'once, c'est-à-dire les 31 grammes. L'argent, lui, est à 76 $ l'once.
Mercedes-Benz voit ses résultats s'effondrer.
Oui, le constructeur automobile allemand annonce un bénéfice net de 5 milliards d'euros pour 2025. C'est un résultat divisé par deux par rapport à 2024. Nouvelle illustration de la crise qui frappe le secteur automobile en Allemagne et plus largement en Europe.
Et Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
C'est matinale spatiale aujourd'hui sur France Info. On vous fait vivre le départ de la spationaute française, Sophie Adno, pour la Station Internationale Spatiale. Et puis hier, c'est la fusée européenne Ariane 6 qui a décollé du centre spatial de Kourou en Guyane pour placer en orbite 32 satellites pour le géant américain Amazon.
Et merci Emmanuel Cuny pour le réveil de l'écho et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
5h53 sur France Info, c'est l'heure de la playlist du jour. Diane Ferchit avec ce chiffre colossal, 200 millions de dollars.
Oui, selon plusieurs médias américains, c'est la somme qu'aurait touché Britney Spears pour la vente de son catalogue musical à l'éditeur Primary Wave. C'est lui, désormais, qui possède les droits des chansons de la pop star depuis son tout premier hit. Souvenez-vous, il est sorti en 1999. Hit Me Baby One More Time, mais aussi Toxic ou encore Oops I Did It Again, autant de tubes qui continuent à circuler massivement sur les plateformes de streaming et à générer des revenus. Une vente pour la chanteuse de 44 ans qui apparaît comme un moyen de reprendre le contrôle sur sa vie après des années passées sous tutelle et qui lui assure bien sûr un revenu financier conséquent. Et surtout immédiat.
Et Diane, ce n'est pas la seule artiste à avoir fait ce choix.
Il y a deux ans, c'est un chanteur de moins de 30 ans qui avait décidé de céder son catalogue, lui aussi, pour près de 200 millions de dollars. Justin Bieber, une voie ouverte par des légendes de la musique. Bob Dylan, en 2020, a vendu ses droits à Universal. Pactole estimé entre 300 et 600 millions de dollars. Bruce Springsteen aussi, 500 millions de dollars versés par Sony pour le catalogue du boss. C'est après la crise du Covid que le phénomène Jeanne s'est amplifié, quand les artistes se sont retrouvés empêchés de se produire sur scène, une façon pour eux de se mettre, ainsi que leurs proches, à l'abri du besoin, sans avoir à gérer leur musique à l'échelle mondiale, mais en acceptant que leurs titres servent à des publicités et à des films sans qu'ils puissent toutefois donner leur avis. Tout l'inverse d'une certaine Taylor Swift qui a, elle, mis des années à racheter les droits de ses chansons. Espérons pour Britney qu'elle ne regrettera pas son choix à l'avenir.
De France Info signée Diane Ferchit à réécouter sur l'application Radio France. La météo à suivre.
France Info reportage sur le terrain, sur tous les terrains.
On l'entend arriver de loin, Alice, avec sa voiturette sans permis.
À la longue, ça va un peu de bruit, mais c'est quand même très pratique.
À 17 ans, Alice est déjà une conductrice expérimentée.
Au lycée, on a tout ce genre de voiture, parce qu'on est souvent dans des petits villages où on n'a pas de bus.
Partout avec vous.
Il détonne ce drone flottant, amarré parmi les voiliers. Il ressemble à un sous-marin rouge.
Alors, les capteurs sont situés dans la quille. Donc on a un hydrophone qui permet de détecter les émissions sonores des dauphins communs.
Ces instruments ont scruté les profondeurs entre Royan et Noirmoutier, une zone où les captures accidentelles de dauphins sont les plus importantes.
France Info, pas juste. Juste l'info, l'info juste.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, c'est une journée encore bien arrosée qui nous attend.
Mais oui, de nouveau de la pluie après la tempête, on n'en sort pas. Alors on a une évolution là de la vigilance. Quelques départements vont sortir de vigilance crue, notamment nous avons la Lozère, la Haute-Vienne et le Finistère. La Savoie va sortir également de la vigilance avalanche et puis la Corse pour ses vagues et submersions. Mais la Méditerranée reste très agitée. On a trois choses à surveiller, la pluie. Non, je plaisante. Mais je suis pas loin. Alors, les pluies qui rentrent par le Val-de-Loire, l'Île-de-France, elles vont même stagner toute la journée en soirée avec du coup de forts cumuls de pluie d'ici ce soir, l'équivalent de 3 semaines, voire 1 mois de pluie entre la Normandie, notamment, et Paris. Également, la neige sur les Pyrénées aussi, on la surveille. En moyenne montagne, dès 1300 mètres d'altitude, nous avons un bon paquet de neige là sur les Pyrénées de nouveau et à l'ouest des Pyrénées notamment, attendu. Et puis de la pluie de nouveau en basse vallée du Rhône qui se décalera vers le Massif central, vers les Alpes, amenée par la dépression Oriana. C'est une nouvelle tempête qui sévit sur l'Espagne, figurez-vous, qui arrive en Méditerranée et qui va empiéter là sur le sud de la France, de nouveau avec du vent, mais beaucoup de pluie également, et qui se décalera petit à petit vers l'Italie. Et puis nous avons le froid qui va s'installer ce week-end, oui, parce que l'hiver n'est pas fini. Il sera rapidement chassé par le redoux, hein, il ne va pas rester en place très longtemps, mais comme le temps restera perturbé, pluvieux, et notamment dimanche, eh bien avec le froid, c'est de la neige que nous risquons d'avoir jusqu'en plaine, notamment sur Paris, oui, dimanche matin.
Merci Christine Peña, on l'a compris, hein, c'est le parapluie, notre meilleur accessoire pour ce week-end. Presque 6 heures sur France Info et pour les 3 prochaines heures, voici Adrien Beck qui vous accompagne. Bonjour Adrien.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous en ce vendredi matin, vendredi 13 février. Tiens, jour de chance pour Sophie Adnaud. Elle devient dans quelques heures la deuxième Française à s'envoler pour l'espace. Journée spéciale sur France Info. On est à Cap Canaveral, là où se déroulera le décollage de la capsule SpaceX. On est aussi à la Cité de l'Espace de Toulouse pour tout vous dire de l'entraînement des astronautes, des missions aussi qu'ils vont réaliser dans la Station Spatiale Internationale. À mes côtés, vous venez de l'entendre, sur la terre ferme, enfin j'espère, oui. Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour.